بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous revenons à cette fameuse bataille qui était la bataille de Badr. On a expliqué la dernière fois qu'après le duel qui a coûté la vie à trois idolâtres et qui a gravement et même mortellement blessé un des trois musulmans dans le duel, juste après ça, évidemment, l'armée idolâtre se déchaîne et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ordonne aux musulmans de se mettre en rang et de supporter les attaques incessantes des vagues successives de l'armée idolâtre qui attaque d'un coup. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait mettre les combattants qui ont des lances en premier, dans les premiers rangs, pour qu'ils puissent mettre les lances de manière ferme vers l'avant pour empêcher l'armée idolâtre de se frayer une brèche à l'intérieur de l'armée musulmane. Donc il les laisse en bloc. Et derrière, il met les archers afin que les archers puissent envoyer leurs flèches sur les idolâtres, mais il leur précise إِذَا أَكْثَبُوكُمْ فَرْمُوهُمْ وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ. Lorsqu'ils sont près de vous et nombreux, bombardez-les, tirez sur eux vos flèches. وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ. Mais gardez-en. C'est-à-dire, n'utilisez pas, ne gaspillez pas vos flèches. Dans une autre version, il dit إِنْ دَنَا الْقَوْمُ مِنْكُمْ فَانْبَحُوهُمْ بِالنَّبْلِ. Dès qu'ils s'approchent de vous, bombardez-les, aspergez-les, faites pleuvoir sur eux les flèches. Naam. Dans une autre version qu'on n'a pas citée la fois dernière, وَلَا تُسَلُّوا سَيُوفَكُمْ حَتَّى يُرَشُّوكُمْ. Et ne tirez vos épées de leur fourreau que lorsqu'ils vous auront enveloppé, c'est-à-dire lorsqu'ils arriveront à rentrer à l'intérieur du bloc, à ce moment-là vous tirez les épées, mais avant ça n'utilisez pas vos épées. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement expliqué que la position était une position défensive, et on a expliqué que cette position elle était là pour fatiguer les idolâtres, puisqu'on sait que les idolâtres sont extrêmement nombreux, et c'est pour ça qu'ils attaquent sans stratégie. Ils se disent on est trois fois plus nombreux, donc on va faire deux qu'une bouchée de pain. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam tente le plus possible de les fatiguer, et aussi à travers les flèches qui sont jetées de les faire soit qu'ils sonnent la retraite, qu'ils repartent en arrière, et c'est ce qu'ils font à plusieurs reprises. Ils repartent en arrière pour ressonner l'attaque, ils repartent en arrière à cause des flèches, ils ressonnent l'attaque, etc. Et aussi, évidemment, les flèches peuvent toucher certains d'entre eux, les blesser, voire les tuer, et donc ça diminue le nombre de combattants idolâtres, et ça les dissuade aussi de combattre. Pendant tout ce temps-là, on a expliqué aussi que les musulmans, l'armée des musulmans avait une devise et un slogan qu'ils ne cessaient de répéter, c'était « Ahadun Ahad », Ahadun, Ahad, Ahadun, Ahad. Unique, il est l'unique, l'unique. Il est l'unique, l'unique. Il est l'unique, l'unique. En parlant d'Allah Azzawajal. Puisqu'au final, c'est ça le sujet de cette guerre. C'est ça l'objet de la guerre. C'est que les idolâtres leur refusent cette parole, leur refusent cette conviction et cette foi. Ils refusent que les musulmans puissent librement affirmer, revendiquer, vivre, pratiquer l'unicité d'Allah Azzawajal. Donc, s'il y a un moment où il faut le revendiquer et le crier haut et fort, c'est pendant cette guerre, et c'est pour ça que les musulmans ne cessent de répéter à haute voix « Ahadun Ahad », « Il est l'unique, l'unique ». On expliquait également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va prendre une poignée de terre et il va la lancer sur les à l'horizon. Les idolâtres sont loin. Au moment où ils vont sonner l'attaque, ils sont loin. Donc ils vont encore traverser en courant toute cette plaine. Et de loin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lancer cette poignée de terre qu'il a demandé à Ali ibn Abi Talib. Il va lui dire Nawilni, Nawilni kaffan min al-hasa, donne-moi une poignée de terre. Il va lui donner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lancer vers l'horizon, vers l'armée des idolâtres, et en même temps il va dire Shahatil wujuh, que les visages soient enlaidis. Et certaines versions racontent qu'à ce moment-là, les idolâtres qui couraient, tous dans le premier rang, ils vont ralentir. Et ils vont se mettre les yeux, les mains sur sur le visage et sur les yeux pour se frotter, comme si, yani, c'est pas comme si, c'est parce qu'ils ont tous été touchés par cette poussière. Et il y a un verset du Coran qui fait référence à cette situation et qui dit وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Et tu n'as pas jeté lorsque tu as jeté, en parlant du professeur Sam quand il prend cette poignée de poussière et de sable. Et tu n'as pas jeté lorsque tu as jeté, walakin Allah harama. Mais c'est Allah qui a jeté. Parce que si c'était juste le professeur Sam qui avait jeté, cette poussière ne serait pas arrivée jusque là-bas, des dizaines de mètres là-bas. En une seconde, elle arrive sur leur visage. C'est impossible. Donc, c'est Allah Azzawajal qui a jeté, qui a fait en sorte de faire parvenir cette poussière jusque le premier rang des idolâtres, afin que cette poussière les gêne, afin que cette poussière les dérange. Et les idolâtres vont tenter, comme ils n'arrivent pas, malgré ces plusieurs vagues, ils n'arrivent toujours pas à venir à bout des musulmans, leur seul objectif, c'est de réussir à rentrer dans cette armée, parce que quand ils rentreront dans cette armée, c'est bon, ils sont trois fois plus nombreux. Mais ils n'y arrivent pas. Donc, l'autre stratégie, en plus des vagues successives d'attaques qu'ils mènent contre les musulmans, mais les musulmans tiennent bon, le professeur Sam leur dit « Shuddu, shuddu, tenez, tenez, soyez fermes dans vos positions. » Du coup, les idolâtres vont tenter en même temps que ces vagues successives aussi la stratégie des flèches. Et ils ont assez de flèches pour en gaspiller. Donc ils essaient aussi de bombarder le plus possible les musulmans de flèches. Et les musulmans, évidemment, se protègent tant bien que mal avec les boucliers qu'ils ont. Mais deux hommes, pendant ce moment-là, vont périr. On les avait cités, mais on n'avait pas expliqué de qui il s'agit. Premièrement, Mihja' ibn Salih. Et deuxièmement, Haritha ibn Suraqa. Mihja' ibn Salih, il est un des compagnons de Mecca, c'est un muhajir. Un émigrant, et le compagnon Haritha ibn Suraqa, c'est un Ansar, il fait partie des Ansar, c'est un compagnon de Médine. Donc ici, on voit que les deux premiers à mourir, donc le premier c'est quelqu'un parmi les Muhajir, parmi les Mekwa, et le deuxième c'est quelqu'un de Al-Madina. Qui sont-ils? Que peut-on dire à leur sujet, ces deux personnes? Le premier, c'est Mihja' ibn Salih. Mihja' ibn Salih, c'est un compagnon de Mecca, et dans les livres qui parlent de lui, ils disent Mihja'u Mawla Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Mihja' c'est l'allié, le Mawla de Omar ibn al-Khattab. Mawla en arabe, c'est le terme qu'on donne à quelqu'un qui était dans le temps esclave d'une personne qui l'a affranchi. Quand quelqu'un libère un esclave, on dit qu'il garde un certain lien avec lui. Ce lien, c'est le lien de Mawla. Il reste, entre guillemets, allié à lui. À un tel point que l'islam donne des droits d'héritage à celui qui a franchi un esclave. Il y a toujours un lien d'héritage entre eux, alors qu'ils n'ont aucun lien de famille entre eux. Et donc, Mehja ibn Saleh, c'était un esclave libéré et affranchi par Omar ibn al-Khattab. C'est pour ça que vous pouvez voir dans les livres qu'on le surnomme Mehja'u Mawla Omar. Mehja, le Mawla de Omar. Il fait partie de As-Sabiqoun al-Awwaloun. Il fait partie des tout premiers à s'être converti à l'islam. As-Sabiqoun al-Awwaloun. Naam. Il fait partie des tout premiers à s'être converti à l'islam à Mecca. Il fait aussi partie des tout premiers à avoir pratiqué l'émigration vers Médine, parce qu'il fait partie des plus persécutés. Il a été esclave, ensuite Omar ibn al-Khattab va finalement, à sa conversion lui aussi, il va la franchir, mais il sera considéré comme un moins que rien à la Mecque, donc il va être perpétuellement harcelé, persécuté par les gens de la Mecque pour son choix religieux. Donc il va, dès qu'il se sera permis l'émigration, il va être un des tout premiers à trouver refuge à Médine. Mehja ibn Saleh, c'est quelqu'un qui à la base est originaire du Yémen. Ça c'est ce qui concerne Mehja ibn Saleh. C'est le premier, le tout premier dans l'armée musulmane qui va recevoir une flèche et qui va être tué par les idolâtres. Le deuxième à trouver la mort sur le champ de bataille parmi les musulmans et pendant ce moment-là, parce qu'il y en a d'autres des musulmans qui vont mourir, mais après, lorsqu'il y aura la grande bataille entre les deux armées. Pour l'instant, on est juste, les idolâtres essaient de les attaquer, mais les musulmans sont sur une position de défense et ils arrivent à tenir. Et après, évidemment, il y aura plus de morts que ça et on va expliquer, inshallah, plus tard. Pour l'instant, ce deuxième mort qui va recevoir une flèche, il n'est pas dans l'armée musulmane. Il fait partie de ce qu'on appelle un Nadhara. C'est Harithat ibn Suraqa. Nadhara, d'ailleurs, avant de venir à Harithat ibn Suraqa, j'ai oublié une chose à propos de Mehjar ibn Saleh, c'est à propos de lui et de certains autres compagnons comme Bilal, les compagnons faibles de la Mecque qui étaient très souvent persécutés. C'est à propos d'eux, de lui et d'eux, qu'un verset du Coran a été révélé dans sourate Al-An'am, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Et ne rejette pas, ne repousse pas ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Ils ne recherchent que sa face, ils ne recherchent que l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Ce verset, il s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant ne repousse pas ces gens-là, les gens comme Mehjar qui sont persécutés, qui sont faibles, etc. Parce que justement, parmi les arguments qui sont pris à l'époque mecquoise par les notables de la Mecque contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'ils lui disent si au moins tu éloignais de toi ces esclaves-là, ces pauvres, ces miséreux, ces vagabonds, parce qu'ils les considéraient comme des moins que rien. Ils n'avaient pas de tribu à laquelle s'affilier, ils n'étaient pas importants pour eux, c'était un esprit tribaliste qui régnait sur la Mecque. Donc il lui disait, si au moins tu faisais l'effort d'éloigner ces gens-là autour de toi, peut-être qu'on accepterait de discuter, de t'écouter. Mais il y a toujours ces gens-là autour de toi. Et le prophète, et Allah Azza wa Jal répond en disant au prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, surtout ne les repousse pas, surtout ne les écoute pas, ne fais pas ça. Parce que eux, ces gens-là, ceux qui sont autour de toi, ce sont ceux qui évoquent Allah Azza wa Jal matin et soir. Et ils ne recherchent que l'agrément d'Allah, ils ne recherchent que sa satisfaction, contrairement aux idolâtres de la Mecque. Naam. Et on sait aussi qui a tiré cette flèche qui a tué Mehjar ibn Saleh. Ben c'est tout simplement Amir ibn al-Hadrami. Amir ibn al-Hadrami, je le rappelle, c'est le frère de Amr ibn al-Hadrami, celui, le premier idolâtre qui a été tué par les musulmans dans une bataille. Et c'était à la bataille de l'Ushayra. Alhamdulillah. À la bataille de l'Ushayra, il a été tué. Et donc là, on a son frère, Amr ibn al-Hadrami, qui justement, Abu Jahl l'avait appelé lorsque Utba ibn Rabi'a voulait convaincre l'armée des idolâtres de retourner à la Mecque, il l'avait appelé pour dire, on est là pour venger ton frère. Crie, hurle, réclame la vengeance pour ton frère et il va le faire d'une manière assez atypique comme on l'avait expliqué les dernières fois. Et Amr ibn al-Hadrami, il est là pour venger son frère. Donc il est là pour tuer. Et une des choses, lui, qu'il va faire, c'est, il ne cherche pas forcément à se frayer une brèche dans l'armée, c'est il cherche à bien viser et à tuer des musulmans. Et donc il tente. Évidemment, les musulmans se protègent avec leurs boucliers, mais à un moment ou à un autre, le compagnon Mihja ibn Salih, radiyallahu anhu, va être touché par une flèche qui est tirée par cet homme, Ghamir ibn al-Hadrami. Alors, on passe à présent au deuxième qui est tué à ce moment-là parmi les musulmans, c'est Harithatu ibn Suraqa, radiyallahu anhu. Harithatu ibn Suraqa, c'est un compagnon de Médine, des Bani Najjar. Et les compagnons de Bani Najjar, c'est le quartier des Bani Najjar, c'est le quartier dans lequel s'installe le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et le quartier dans lequel est construit la mosquée du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont ceux qui accueillent le professeur Hassan. D'ailleurs, le professeur Hassan a un lien familial avec ces gens-là par sa grand-mère. Yani, non, sa grand-mère est issue de la tribu des Bani al-Najjar de Médine. À la kulli hal, il faut savoir que cet homme qui est tué, ce jeune homme, puisque c'est un jeune, Harithat ibn Suraqa, radiyallahu anhu, il est le cousin du compagnon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, puisque sa mère, la mère de Harithat ibn Suraqa, c'est la tante paternelle du compagnon Anas ibn Malik. Donc lui et Anas ibn Malik sont des cousins par la mère de Harithat ibn Suraqa et le père de Anas ibn Malik. Le père d'Anas ibn Malik et la mère de Harithat ibn Suraqa étaient frères et sœurs. Il faut savoir aussi que Harithat ibn Suraqa ne sera pas tué dans les rangs des musulmans. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'armée, à l'intérieur des rangs de l'armée musulmane. Il était musulman. Il n'était pas non plus, évidemment, dans l'armée des idolâtres. Mais c'est parce qu'il fait partie de ce qu'on appelle An-Nadhara, ceux que le professeur Sam a désigné pour observer. Il avait pris quelques jeunes avec lui qui avaient insisté pour combattre, et Harithat ibn Suraqa en fait partie, et pour qu'ils ne risquent pas leur vie, il leur a demandé, eux, de se tenir sur une colline qui surplombait la plaine de Badr et d'observer les faits et gestes. Parce que le professeur Sam est occupé, il est à côté de ses troupes, donc il ne voit pas forcément toute l'armée des idolâtres et toute l'armée des musulmans. Il a demandé à ce groupe de se mettre sur cette colline et d'observer pour que s'il y a quelque chose qui leur échappe, s'il y a un piège qui est préparé par les idolâtres, il faut qu'ils viennent informer le professeur Salam. Et ici aussi, on voit encore une fois, mashallah, la stratégie du professeur Salam. Le professeur Salam donne ce rôle à ces jeunes de se mettre sur cet endroit et ils ont comme rôle uniquement d'observer et de regarder. Ala kulli hal, Harithat ibn Suraqa va se mettre sur cet endroit avec les autres et il observe. Donc, il observe l'armée des musulmans et l'armée des idolâtres de la Mecque. Et à quel moment il va recevoir une flèche? C'est qu'à un moment il va avoir soif, donc il va descendre de cette colline pour aller prendre un peu d'eau du bassin qui a été creusé par les musulmans. Et c'est à cet endroit-là qu'il va recevoir une flèche, et il va la recevoir, selon les versions, dans le cou. Et donc cette flèche va le tuer, et en il va la recevoir, et quelques instants après, il meurt. Harithat ibn Suraqa radiyallahu anhu est donc mort en recevant cette flèche. D'où il reçoit cette flèche, ça, les versions divergent, en tout cas on n'en est pas sûr. Et on a tendance à dire que c'est une flèche perdue dans le sens où soit c'est une flèche qui vient du côté des musulmans et qui a atterri là par erreur, soit elle est de chez les idolâtres, mais il n'a pas forcément été visé par l'idolâtre. C'est une flèche qui lui était pas destinée. En tous les cas, c'est ce que ça veut dire. On dit dans les versions « sahmun gharb », une flèche qui n'était pas, pour laquelle on ne l'avait pas visée. Donc que ce soit un idolâtre ou que ce soit une flèche dans l'armée, qui a été tirée de l'armée musulmane, Harithat ibn Suraqa va recevoir une flèche qui ne lui était pas destinée. Ala kulli hal, on a un hadith dans l'authentique de Bukhari qui nous explique d'ailleurs comment va recevoir sa mère. On dit qu'il était le seul fils qu'avait sa mère. Et donc sa mère tenait beaucoup à lui. Et comment sa mère va recevoir l'information, l'annonce de sa mort. On dit que lorsque l'armée va rentrer à Médine et qu'elle va être informée que son fils est mort dans la bataille, elle va aller à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rentre de la bataille de Badr, Et elle va lui dire, Ya Nabi Allah, Ala tuhaddithni an Haritha? Ala tuhaddithni an Haritha? Ô messager d'Allah, ô prophète d'Allah, ne m'informeras-tu pas au sujet de Haritha? Donc elle sait que son fils est mort. Et elle sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut rien ne lui annoncer d'autre qu'il est mort, qu'il a été tué. Mais elle précise, elle dit, Ala tuhaddithni? Bima ala tuhaddithni an Haritha? فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. S'il fait partie des gens du paradis, au messager d'Allah, je serai persévérante et je serai patiente. Mais s'il n'a pas droit au paradis, s'il n'est pas destiné pour le paradis, alors je ferai tous mes efforts pour le pleurer le plus possible. Ici, elle fait référence à quoi quand elle dit je ferai tous mes efforts pour le pleurer le plus possible, c'est-à-dire pour se lamenter pour sa mort. Parce que les Arabes de l'époque avaient une habitude au moment du deuil, surtout les femmes, c'était de se lamenter, de crier son désespoir au moment de la mort d'un être cher. Évidemment, ça a été interdit par l'islam, mais au moment de la bataille de Badr, c'était une tradition qui était encore tolérée. Elle n'a pas encore été formellement interdite par l'islam. Cette tradition de ce qu'on appelle an-niyaha, la lamentation, le fait de crier son désespoir, sa douleur pour la mort de quelqu'un, elle ne sera interdite qu'au lendemain de la bataille de Badr. C'est-à-dire que l'islam nous autorise à pleurer, à invoquer Allah pour nous, pour le mort, quand on perd quelqu'un, tout en pleurant, mais à faire attention à ce qu'on dit, à pas crier n'importe comment, et à pas dire des choses qui ont un sens grave, comme « Oh Dieu, pourquoi tu me l'as pris? Pourquoi ça m'arrive à moi? Comment je vais faire pour vivre sans lui ?» Des choses comme ça, yani, que le musulman ne devrait pas dire. C'est ce qu'on appelle « niyaha » et c'était encore toléré. C'est pour ça que cette femme, la mère de Harithat ibn Suraqal, dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Si il est au paradis, je patienterai. Je ne crierai pas, yani, je vais prendre sur moi. » Mais si il n'est pas destiné au paradis, alors je pleurerai le plus fort possible. C'est-à-dire, je pratiquerai la lamentation de toutes mes forces. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, Ya Umma Haritha, innaha jinan fil jannah, wa inna bnaki asab al firdaus al a'la. Ô Umma Haritha, toi tu me demandes s'il a été destiné au paradis, mais c'est pas juste un paradis, parce que paradis, ça veut dire en arabe, jannah, ça veut dire un jardin. C'est pas juste un jardin, innaha jinan. Il a droit à plein de jardins au paradis. Innaha jinan fil jannah. C'est à plein de jardins dans le paradis qu'il a droit. Wa inna ibnaki asab al firdaws al a'la. Et ton fils a obtenu le firdaws, le plus haut degré du paradis. Parce qu'il est mort en martyr au final. Naam. Dans une autre version, on nous dit قتل حارثة بن سراقة يوم بدر وكان في النظارة. حارثة بن سراقة a été tué le jour de Badr et il faisait partie des observateurs, donc ceux qui observaient les deux armées et qui surveillaient s'il y avait quelque chose qui était anormal pour prévenir le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. فأصابه سهم طائش, et une flèche perdue l'a atteint. فقتله, et cette flèche l'a tué. فجاءت أمه فقالت, et sa mère est venue et elle a dit, Ya Rasulallah, akhbirni an Haritha. Ya Rasulallah, akhbirni an Haritha. Ô messager d'Allah, informe-moi au sujet de Haritha. Fa'in kana fil jannati sabart. Si il est au paradis, je patiente. Wa illa fala yarayanna Allah ma asna'. Et s'il ne l'est pas au paradis, alors Allah verra ce que je suis capable de faire, sous-entendu, comment je suis capable de m'attrister, de pleurer pour mon fils, donc de me lamenter pour mon fils. On a expliqué qu'elle tenait beaucoup à son fils. Et on a expliqué qu'à ce moment-là, la lamentation pour le décès de quelqu'un n'était pas encore interdite en islam. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَهَبِلْتِ. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, es-tu devenue folle? Es-tu devenue folle? Sous-entendu, comment tu peux me poser cette question? Parce que il est mort en martyr, donc comment tu peux encore douter? Comment tu peux poser cette question? Es-tu devenue folle? Innaha jinanun thaman. c'est pas juste un paradis, c'est huit paradis. Il y a huit degrés et les martyrs peuvent aller dans tous les étages qu'ils veulent du paradis. Wa inna ibnaki asaba al-firdaws al-a'la. Et ton fils a obtenu le plus haut degré, al-firdaws. Il y a huit étages et ton fils a obtenu le plus haut des étages. Naam. Ya Rasulallah, dans une autre version, on nous dit qu'elle dit Ya Rasulallah, إِيَّكُمْ فِي الْجَنَّةِ لَمْ أَبْكِي وَلَمْ أَحْزَنْ وَإِيَّكُمْ فِي النَّارِ بَكَيْتُ مَا عِشْتُ فِي دَارِ الدُّنْيَا. Dans une autre version, on nous dit que la mère de Harithat ibn Suraq, elle va dire au messager d'Allah, s'il est au paradis, je ne pleurerai pas et je ne m'attristerai pas. Par contre, s'il est en enfer, je pleurerai tout le restant de ma vie. Et là, on voit aussi la foi de cette femme, Yani. Parce qu'au final, à travers cette parole, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Elle est en train de nous dire que si elle pleure, ce sera pas pour la mort de son fils. Ce sera parce qu'il doit aller en enfer. Et elle pleurera tellement ça va l'attrister et ça va la rendre malheureuse, elle va pleurer jusqu'à la fin de sa vie. Par contre, s'il va au paradis, elle ne s'attristera pas et elle ne pleurera pas. Pourquoi? Parce qu'il est au paradis. Non. Donc ça, ce sont les deux premiers morts à ce moment-là de la bataille de Badr du côté des musulmans, Mihja ibn Salih radiyallahu anhu et Harithat ibn Suraqa radiyallahu anhu. On passe à présent à autre chose, toujours dans la bataille de Badr, c'est qu'il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est une recommandation qui va être faite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a dit déjà plusieurs recommandations. Et là, cette recommandation, j'en parle maintenant parce qu'on n'est pas sûr. Est-ce que le professeur Hassan va faire cette recommandation avant le début de la bataille, avant l'arrivée des idolâtres? Ou est-ce qu'il va la faire au moment où il voit les idolâtres et que la bataille n'a pas encore commencé? Ou est-ce qu'il va la faire juste après le duel? Ou est-ce qu'il va la faire à ce moment-là où on est arrivé, nous, où il y a ces vagues successives qui arrivent contre l'armée des musulmans et qui n'arrivent pas à couper l'armée des musulmans, à se frayer un chemin dans l'armée des musulmans. Et juste après, il va y avoir l'attaque générale entre les deux armées. Est-ce que c'est juste à ce moment-là que cette recommandation est faite? On n'a pas de certitude. Donc, en tout cas, on en parle maintenant, mais on sait que c'est avant l'attaque générale entre les deux armées que va être faite cette recommandation. Dans cette recommandation, on a plusieurs versions historiques qui nous le rapportent dans un sens global qui est identique, mais avec des versions différentes. On a par exemple une version qui est reprise par Ibn Ishaq, par Dhahabi, par Al-Hafidh Ibn Hajar et par Ibn Sa'd dans son ouvrage Tabaqat, où on nous dit que le prophète sallam s'est adressé à son armée et il va dire Qad araftu anna rijalan min bani Hashimin qad ukhrijou kurhan la hajata lahum biqitalina faman laqiya ahadan minhum fala yaqtulhu. Le professeur Hassan leur dit ici, قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رِجَالًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ. Je sais qu'il y a des hommes parmi la tribu des Bani Hashim. Et la tribu des Bani Hashim, c'est la tribu à laquelle appartient le professeur Sallam. C'est la tribu de son arrière-grand-père, Hashim. Hashim, ça veut dire les Bani Hashim, tous ceux qui descendent de Hashim, c'est-à-dire l'arrière-grand-père du professeur Sallam. Le prophète Hassan dit, je sais qu'il y a des hommes parmi les Hashim, parmi les Bani Hashim, donc de sa famille, qui sont sortis et qu'on leur a imposé d'être présents dans l'armée des idolâtres alors qu'ils ne veulent pas. Mais ils n'ont pas eu le choix. Faman laqiya la hajata lahum biqitalina. Ils ne veulent pas nous combattre. Faman laqiya ahadan minhum, fala yaqtulhu. Celui donc qui en rencontre un parmi eux, qu'il ne le tue pas. Il ne faut pas tuer quelqu'un des Bani Hashim. Et nous, on a déjà expliqué ça. On a déjà expliqué la querelle qu'il y avait eu entre l'Abbas ibn Abdel Muttalib et Abu Jahl, juste sur le rêve qu'avait fait Atika bint Abdel Muttalib. Ensuite, on avait expliqué aussi lorsque l'armée idolâtre avance vers Badr et que l'Akhnas ibn Shurayq va réussir à convaincre 300 hommes des Bani Zuhra de faire demi-tour, on a expliqué que certains parmi les Bani Hashim vont essayer de faire la même chose, mais Abu Jahl va leur en empêcher en leur disant qu'eux, ils n'ont pas le choix, que la tribu des Bani Zuhra, ils ont le choix de repartir, mais pas les Bani Hashim parce que les Bani Hashim sont considérés comme suspects d'être des espions à la solde du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'ils appartiennent à sa famille et ils sont de la même tribu. Donc, ils vont être obligés de continuer la route. Alors ici, la question qu'on peut se poser, c'est comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu cette information. N'oubliez pas que on avait expliqué qu'il y avait deux puiseurs de l'armée idolâtre de la Mecque qui avait été capturé au puits de Badr avant que l'armée musulmane arrive à Badr et avant que les idolâtres arrivent à Badr. Les idolâtres, si vous vous rappelez, ils avaient envoyé deux jeunes gens leur remplir de l'eau parce qu'ils avaient plus d'eau alors qu'ils étaient en route vers Badr. Et les éclaireurs musulmans qui étaient venus observer ce qui se passait à Badr vont les capturer et ils vont être interrogés par les compagnons de manière musclée, et ensuite le professeur Sam va lui les interroger de manière plus tendre et plus douce, comme on l'avait expliqué en détail. Donc revenez vers les anciens audios si vous voulez les détails. Mais en tous les cas, le professeur Sam a pu avoir évidemment cette information de la part de ces deux jeunes gens, puisque eux, ils ont vu quand Abu Jahl a forcé les Bani Hashim de continuer la marche vers Badr et de participer à ce combat. Dans une version de Ahmed, dans le recueil de Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son armée: Man istata'tum an ta'siru min bani Abdil Muttalib fa'alu, fa innahum kharajou kurhan. Ceux que vous arriverez à capturer, à faire prisonnier des bani Abdil Muttalib, c'est-à-dire à les faire prisonnier sans les tuer, eh bien faites-le. Parce qu'ils sont, la plupart d'entre eux sont sortis de force. Il ne voulait pas être de cette partie. Il ne voulait pas être dans ce combat. Chez Ibn Ishaq, la version de Ibn Ishaq, le professeur sallam précise aussi des noms. Il donne des noms de personnes qu'il ne faut pas tuer, pas forcément que de sa famille, pas forcément que des gens de sa tribu. Par exemple, il va dire: Man laqiya Abu al-Bakhtar ibn Hisham, fala yaqtulhu. ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله فإنما خرج مستكرها. Le professeur Hassan va dire: celui qui croise dans la guerre, dans le combat, Abu al-Bakhtar ibn Hisham, c'est un des notables de la Mecque, mais il n'a rien à voir avec les Bani Hashim, la tribu du professeur Hassan. Il appartient à une autre tribu. Et pourtant, le professeur Hassan va dire à propos de cette personne: celui qui le croise, qu'il ne le tue pas. Et celui qui croise l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, et là, pour le coup, l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, c'est l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fala yaqtulhu, fa innama kharaja mustakrahan, parce qu'il est sorti, l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, il est sorti, on lui a imposé cette guerre. Il n'a pas voulu cette guerre. Non, mais au contraire, lui, il croyait au rêve qu'avait fait sa sœur Atika. Et il pensait que ce rêve était un vrai rêve qui annonçait un grand échec pour les idolâtres. Donc, qu'est-ce qu'il va faire dans une guerre où il sait que ça va être un échec pour les idolâtres? C'est parce que on lui a sommé de prouver qu'il était du côté des musulmans, puisque le Abbas ibn al-Muttalib tient une façade où il dit: je ne suis pas musulman, mais je ne livre pas mon neveu, comme le faisait son frère Abu Talib avant lui. Même si l'Abbas ibn Abd al-Muttalib va finir par devenir musulman, la seule chose, c'est que les historiens divergent. Est-ce qu'il va finir par se convertir plus tard, ou est-ce qu'en fait il est déjà musulman, mais il cache son islam devant les idolâtres? Ala kulli hal, Abu al-Bakhtar ibn Hisham, lui, il ne fait pas partie de la tribu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui aussi, il va être concerné, entre guillemets, par cette amnistie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, il va être tué, hein, Abu al-Bakhtar ibn Hisham, et on expliquera plus tard en détail pourquoi finalement il va être tué et pas capturé, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné clairement cette consigne de ne pas tuer Abu al-Bakhtar ibn Hisham et d'en faire un prisonnier. Il faut savoir que Abu al-Bakhtar ibn Hisham, lui, il n'est pas sorti de force. Personne ne lui a imposé cette guerre. Il l'a fait par choix. Et il fait partie des notables de la Mecque qui choisissent d'aller faire la guerre aux musulmans. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le nomme. Il donne son nom pour dire: cet homme-là, tant que vous pouvez, vous ne le tuez pas, vous le capturez. Laissez-lui la vie sauve. Et en fait, si on revient quelques années plus tard, au moment de la mise en quarantaine des musulmans à la Mecque, Abu al-Bakhtar ibn Hisham va avoir un rôle prépondérant dans la fin de cette mise en quarantaine. C'est lui qui va se rebeller parmi les notables de la Mecque, c'est lui qui va se rebeller contre les autres notables de la Mecque pour mettre fin à l'embargo qu'il considérera comme injuste et cruel. Et c'est pour ça pour dire, parce que le professeur Sam n'oublie pas même un seul bien qui a été fait à l'endroit des musulmans, que c'est pour cette raison que le professeur Sam dira, si vous arrivez à le capturer plutôt que de le tuer, faites-le et ne le capturez pas. Ici, certaines versions qui n'ont pas été authentifiées, mais elles sont citées par plusieurs versions historiques, et donc on va la raconter, nous disent qu'au moment où le professeur Salem a cité son oncle, nommément, en disant à son armée, si vous croisez mon oncle, l'Abbas ibn Abdel Muttalib, ne le tuez pas. On a un homme dans l'armée musulmane, un compagnon, radiyallahu anhu, qui s'appelle Abu Hudhayfa ibn Utbah, qui va répondre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme, Abu Hudhayfa ibn Utba, comme son nom l'indique, il est le fils de Utba ibn Rabi'a. Et Utba ibn Rabi'a vient d'être tué dans le duel, son père. Il a vu son père mourir dans le duel. Il a vu son oncle, Shayba ibn Rabi'a, mourir dans le duel. Il a vu son frère, le Walid ibn Utba, mourir dans le duel. Donc d'un coup, ce musulman, il a vu en face, dans le camp d'en face, être tué en duel son père, son frère et son oncle. Et donc il est encore dans ça. Il vient, c'est pas facile pour ce compagnon radiyallahu anhu de vivre ce qu'il vient de vivre. Et il entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam donner cette recommandation pour les Bani Abdel Muttalib, la tribu des Bani Hashim et des Bani Abdel Muttalib, et en particulier pour son oncle. Et donc il va dire: Afanaqtulu aba'ana wa abna'ana wa ikhwanana wa natruku al-Abbas. Wallahi, la in laqituhu, la uljimannahu bis-saif. Il va dire, est-ce que nous devons tuer nos pères, nous devons tuer nos enfants, et nous devons tuer nos frères, et nous allons laisser la vie sauve à l'Abbas? Je jure par Allah que si je le croise, je lui ferai goûter à mon épée. Ici, premièrement, la première chose qu'on précise, c'est que, comme j'ai dit, cette version n'a pas été authentifiée. Donc, on ne sait pas si c'est la réalité, c'est vrai, ça s'est vraiment passé ou pas. Parce que ce propos de Abu Hudhayfa ibn Utba, il l'a vraiment tenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas. Mais dans le cas où c'est vrai, encore une fois, il faut se mettre dans le contexte et se mettre à la place de cet homme. D'ailleurs, pour bien comprendre la portée de cette parole, il faut aller au bout de l'histoire, même si elle n'est pas authentifiée. À ce moment-là, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, da'ni fal-adrib 'unuq hadha al-munafiq. Laisse-moi frapper de mon épée le cou de cet hypocrite. Parce que là, Omar ibn al-Khattab, lui, son sang, il ne fait qu'un tour. Quand il entend que cet homme ose dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il ose dire, alors il considère qu'il est hypocrite. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, évidemment, va refuser que Omar ibn al-Khattab le tue parce qu'il ne le considère pas comme un hypocrite. Et il prend en considération cette situation que Abu Hudhayfa est en train de vivre et qui n'est pas facile pour lui. D'ailleurs, Abu Hudhayfa lui-même, dans cette version, dit: Wallahi ma ana aminun min tilkal kalimati allati qultu yawma idhin. ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة. Tout le reste de sa vie, Abu Hudhayfa ibn Utbay, il va regretter cette parole qu'il a dit sous la colère, sous l'effet du drame qu'il est en train de vivre. Il va dire: je jure par Allah que je n'ai plus aucune garantie devant Allah à cause de cette parole que j'ai osé prononcer ce jour-là. Et je suis perpétuellement terrifié par cette parole que j'ai prononcée, que j'ai dite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sauf si Allah me permet de m'en affranchir par la mort en martyr. C'est-à-dire, il dit: j'espère qu'Allah, il va me permettre de mourir en martyr parce que je ne vois pas quel autre acte pourrait effacer cette grave parole que j'ai dite. Et nous, on est des siècles après, donc on sait comment il est mort. En effet, Allah Azzawajal va répondre à son invocation puisqu'il va mourir pendant le règne du calife de Abu Bakr. Lorsque le calife Abu Bakr va lever une armée contre le faux prophète Musaylimatul Kadhab, et il y aura la grande bataille de l'Yamama, Abu Hudhayfa ibn Utba va prendre part à cette bataille, il va mourir en martyr dans cette bataille. Et donc, on voit à travers ce récit, même s'il n'est pas authentique, il y en a que Abu Hudayf ibn Utba va regretter ces paroles et il va implorer Allah Azzawajal de lui permettre de mourir en martyr pour qu'il puisse se faire pardonner de cette parole. Lorsque sa sœur Hind bint Utba, vous savez que Hind elle est mariée à Abu Sufyan et c'est la sœur de Abu Hudayfa. Lorsqu'elle va apprendre à la Mecque qu'est-ce qu'elle va apprendre à la Mecque? Alors ça aussi c'est une version qui est pas authentifiée, et c'est pour ça qu'on l'a pas dit précédemment, mais une version qui est pas authentifiée, qui est pas prise par beaucoup, qui est pas reprise par beaucoup d'historiens, qui disent que lorsque son père, son oncle et son frère sont sortis et ont défié les musulmans, ils ont demandé à ce que ce soit des gens de chez eux, pas des gens de Médine, qui les combattent. Certaines versions qui sont pas authentifiées disent que Abu Hudayfa ibn Utba s'est levé pour aller combattre soit son père, soit son oncle, soit son frère. Parce qu'il a entendu que son père disait « Non, on veut des gens de chez nous. » Et donc lui, il le prend pour lui. Il dit « Ah bah moi, je vais y aller. Je vais répondre à ce défi. » Ces versions prétendent que le professeur Salim lui aurait demandé de se rasseoir parce qu'il ne voulait pas évidemment qu'il se retrouve dans cette situation à devoir affronter son propre frère ou son propre oncle ou son propre père. Et c'est pour ça qu'il va demander à Hamza, à Ali et à Ubaïda ibn al-Harith, radiyallahu anhum, de se lever. Donc il y a une version qui dit ça. Et on nous dit que Hind, sa sœur à la Mecque, lorsqu'elle va apprendre que son père est mort, son frère est mort, et son oncle est mort, et qu'elle va demander « Et mon frère, qui est de l'autre côté chez les musulmans, qu'est-ce qu'il a fait ?» Sous-entendu, est-ce qu'en s'est rebellé, est-ce qu'il a compris ? On va lui dire bah, « Ton frère, c'est carrément lui qui voulait les tuer, puisqu'il voulait répondre au duel, mais son prophète, il a refusé. » Et on raconte que Hind bint Utba, elle va entonner des rimes poétiques pour insulter son frère à ce moment-là, dans lesquelles elle va dire « الأحول الأفعال المذموم طائره أبو حذيفة شر الناس في الدين أما شكرت أبا أما شكرت أبا أما شكرت أبا رباك من صغري حتى شببت شبابا غير محجون. نعم qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit ici الأحول الأفعال المذموم طائره الأحول الأحول Al-af'alu. Ici, en fait, elle critique l'af'al, ça veut dire celui qui a des dents les unes sur les autres. Il a ce défaut d'avoir les dents qui ne sont pas superposées, yani, qui ne sont pas les unes à côté des autres, mais il y a certaines dents qui viennent pousser sur les autres. Et donc, elle le critique sur ses dents. C'est ça, l'af'al. Et l'ahwal, c'est celui qui a un problème de strabisme. Et donc, elle le dénigre comme ça, en disant le bigleux, finalement, celui qui louche, celui qui a les dents les unes sur les autres, celui qui a un mauvais avenir, qui est l'objet des mauvais présages, en fait. C'est ça, il est l'objet des mauvais présages. Abu Hudayfa charru an-nas fi ad-din. Abu Hudayfa, donc son frère, qui est du côté des musulmans, elle va dire charru an-nas fi ad-din. Le pire des personnes dans la religion. Ama shakarta aban rabbaka min sighari. Ne remercies-tu pas un père qui t'a éduqué depuis ta tendre jeunesse? Hatta shababta shababan ghayra mahjouni. Jusqu'à ce que tu sois un jeune homme qui n'est pas tordu, yani, qui n'a pas eu une mauvaise éducation. Hein, yani, ce qu'elle veut dire par là, c'est au lieu de remercier ton père et de lui être reconnaissant en faisant ce qu'il te dit, en lui obéissant, toi, tu voulais carrément répondre à son défi. Naam. Mais comme on a dit, ces versions ne sont pas forcément authentifiées, elles sont rapportées par Ibn Ishaq et Zahabi. Et on nous rapporte aussi, ça on le verra plus tard, que lorsque, à la fin de la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va tout de même, malgré tout, honorer les cadavres des morts idolâtres. Comment il va les honorer? En les enterrant, en leur donnant une sépulture digne. Et ça, on va voir la différence avec la bataille de Uhud, lorsque les musulmans vont laisser leurs morts sur place, puisque c'est eux qui vont perdre la bataille de Uhud. On verra que les cadavres vont être laissés à même le sol, et c'est pas ça le pire. S'ils les laissent sur le sol, c'est pas ça le pire, mais c'est qu'ils vont mutiler les corps des cadavres musulmans. Alors que les musulmans, ils ont le cadavre d'Abu Jahl, celui qui les a persécutés, de Utba, de Umayyou ibn Khalaf et de bien d'autres. Et pourtant, ils vont les mettre dans une fosse, ils vont les enterrer dans une fosse. Donc, ils leur donnent ce que n'importe quel être humain doit avoir, quels que soient les crimes qu'il a commis, c'est qu'il puisse être enterré dignement. D'ailleurs, en parlant de ça, bon, c'est juste une parenthèse. On voit en ce moment, avec la période difficile que nous vivons de confinement et de pandémie du coronavirus, qu'en France, il y a cette problématique qui se pose. Aujourd'hui, en particulier dans la région parisienne et dans les villes qui sont les plus touchées par le coronavirus, les carrés musulmans sont remplis, ils débordent, il n'y a plus de place. Du coup, les musulmans n'ont d'autre choix que d'enterrer leurs morts dans des cimetières chrétiens ou des cimetières communs. Alors que, par respect pour la croyance et pour le culte de la personne, la personne veut être enterrée selon ses rites. Et parmi les rites des musulmans, c'est qu'ils soient enterrés dans un cimetière musulman. Et à défaut d'avoir un cimetière musulman, dans un espace musulman, c'est ce qu'on appelle un carré musulman. Et les villes ne donnent pas plus d'espace que ça pour les musulmans. Et ça fait partie de ce que n'importe quel être humain doit avoir. Même s'il a commis les pires des crimes. En tout cas, l'islam, c'est ce que l'islam nous enseigne. Il a commis le pire des crimes. Et qu'est-ce qu'il peut avoir de pire que mourir? Il est mort. Donc c'est fini maintenant. Son cadavre, il a droit d'être enterré. Il faut l'enterrer. Et il faut l'enterrer comme il aurait voulu. Ça répond à la question aussi. Par exemple, si on a quelqu'un de notre famille ou quelqu'un qu'on connaît qui est mort dans une autre religion que la nôtre, est-ce qu'on a le droit de l'enterrer comme lui, il aurait voulu? Puisqu'il n'est pas musulman, donc on ne va pas lui faire la toilette musulmane, on ne va pas lui faire la prière musulmane, on ne va pas le mettre dans un linceul comme on met les musulmans, etc. Mais est-ce que le musulman a le droit de s'occuper de A à Z, de l'enterrement, en dehors des prières qui sont pas, qui peuvent pas être acceptées par l'islam, mais dans le reste du rite et de la coutume, est-ce qu'on a le droit de faire autre chose que ce que l'islam demande, puisqu'il n'est pas musulman? Eh bien ici, dans un hadith qui a été entre autres authentifié par l'Albani, rahmahullah, lorsque l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, va mourir, c'est le père de Ali, du compagnon Ali. On nous dit que Ali va venir informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, va dire mon père est décédé, il est mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va dire à Ali ibn Abi Talib? Il va lui dire va et occupe-toi de lui donner une sépulture digne, de l'enterrer dignement. Alors qu'il était idolâtre, ça veut dire qu'il n'y a pas de salat de janaza, il n'y a pas de... Mais il va l'enterrer parce que c'est son père et parce que c'est ce que son père mérite. Donc c'est possible que quelqu'un ait quelqu'un de sa famille qui n'est pas musulman, alors, et bien sûr qu'il doit l'enterrer parce que ça fait aussi partie, surtout quand ce sont des parents, ça fait partie du respect qu'on doit aux parents. Et donc il l'enterre. Il ne doit pas participer à prononcer des prières qui ne seraient pas musulmanes, etc. Mais il l'enterre. L'enterrer, c'est la moindre des choses qu'il doit à ses parents. Après, quand c'est quelqu'un qui n'est pas forcément proche, là, il doit laisser les autres s'en occuper. Mais dans le cas où il n'y a personne pour s'en occuper convenablement, et qu'il n'y a que quelqu'un musulman, qu'il soit ami ou proche de cette personne familialement, il a l'obligation, le musulman, de s'en occuper. La priorité, c'est que ce soit les gens qui connaissent sa coutume, qui sont de la même religion que lui, qui s'en occupent, parce que c'est eux qui savent le mieux faire. Mais s'il n'y a personne pour le faire, alors le musulman, c'est pas il a le droit, mais il a le devoir à ce moment-là de le faire. Parce que le musulman, parmi ses devoirs, c'est que il enterre l'être humain qui est mort. C'est la façon d'honorer un mort. La seule façon d'honorer un mort, ou plutôt la meilleure façon d'honorer un mort, c'est d'enterrer le corps, de l'enterrer sous terre. Non. Ala kulli, ça c'était juste une parenthèse. Revenons à Abu Hudayfa. Au moment où les chefs idolâtres, les notables idolâtres vont être traînés vers leur dernière demeure, quand ils vont être enterrés à Badr, après la bataille, au moment où on va traîner le corps de Utba, le père de Abu Hudayfa, on dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers Abu Hudhayfa, il l'a regardé, il a vu que les traits du visage de Abu Hudhayfa vont se crisper, évidemment, puisqu'il voit son père en fait sans vie, et donc c'est un moment extrêmement difficile à vivre pour lui. Et ici aussi, on voit la rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, si la version qu'on a citée tout à l'heure est authentique, il ne va pas se dire tout à l'heure comment il m'a répondu, comment il m'a parlé. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être touché par ce que cet homme est en train de vivre, même si au final, quand on prend du recul, son père, il a été extrêmement dur, extrêmement hostile à l'islam et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va aller vers son compagnon Abu Hudhayfa et va lui dire: La'allaka dakhalaka min hali abika shay. Peut-être, j'ai l'impression, tu me donnes l'impression que il y a quelque chose avec la situation de ton père aujourd'hui qui change. C'est-à-dire, le professeur Sam, finalement, il lui demande: est-ce que ce qui vient de se passer à la bataille de Badr change quelque chose dans sa foi? Est-ce que ça change quelque chose dans sa conviction, dans ses croyances, dans le fait qu'il est-ce que ça remet en question des choses? Pourquoi le professeur Sam pose la question? Parce que c'est humain, ça pourrait être le cas. Et donc, le professeur Sam est là. Parce qu'il sait que maintenant, il peut en avoir besoin, ce compagnon. Il n'est pas de ceux qui vont dire: il m'a mal parlé. Non, il comprend pourquoi. S'il a vraiment, c'est avéré, c'est authentique, il comprend pourquoi il a pu parler comme ça. C'est pas facile ce qu'il vient de vivre. Donc, le professeur Sam va vers lui. Et il lui demande: est-ce que ça va? Est-ce que, sous-entendu, est-ce que tu as besoin d'aide? On est là pour parler. Et il va lui répondre: non, ô messager d'Allah. Non. Non, je jure par Allah que je n'ai aucun doute. Et je sais où est à présent la demeure de mon père. Il sous-entend: je sais qu'il est voué à l'enfer maintenant. Walakinni kuntu a'rifu lahu ra'yan wa fadlan wa hilma. Mais moi, mon père, je l'ai connu autrement. C'est-à-dire, il ne l'a pas connu comme les musulmans persécutés directement par Utba l'ont connu. Lui, il dit: moi, j'ai connu mon père autrement. Je l'ai connu comme un père qui donnait de très bons conseils, qui m'a donné une bonne éducation, Yarni. Je l'ai connu comme un père qui avait beaucoup de mérite. Et c'est sans aucun doute le cas. Wahilman et une grande tendresse. Fakuntu arju an yahdiyahu Allah bidhalik. J'espérais que j'avais encore un espoir qu'Allah le guide grâce à ses atouts qu'il avait, qu'il le guide vers l'islam. J'avais toujours eu cet espoir. Falamma ra'aytu ma asabahu wa dhakartu ma sara ilayhi fi min al-kufri ba'da alladhi kuntu arju ahzanani dhalik. La ilaha illallah. Il dit: mais après avoir vu ce qui lui est arrivé aujourd'hui, et après que je me rappelle maintenant vers où il est parti, c'est-à-dire il est parti rendre des comptes, et donc il n'a plus l'occasion maintenant de se repentir, eh bien, quand je mets ça d'un côté de la balance, et quand je mets de l'autre côté de la balance tous les espoirs que j'avais encore tous ces espoirs. Yarni, il est en train d'expliquer au prophète que tous ses espoirs, ils ont été anéantis, c'est tout. Il sait que maintenant, c'est plus possible. Son père, il pourra plus jamais se repentir. C'est fini pour son père. Son livre se referme à tout jamais. Il dit: Ahzanani dhalik. Ahzanani dhalik. Ça me rend terriblement triste. Naam. Et la version raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va prendre Abu Hudhayfa, radiyallahu anhu, à part, et il va faire des invocations pour lui, et il va lui parler, yani, en lui disant des paroles positives pour essayer de faire en sorte que il tienne le coup. Liana, ça c'est pas facile. Et ici, ça c'est une parenthèse extrêmement importante à ouvrir, mes frères et sœurs, pour beaucoup de nos frères, de nos sœurs qui sont convertis à l'islam et qui malheureusement ont des proches et pour qui ils ont tous les espoirs du monde qui se convertissent à l'islam, et finalement ils meurent sans pouvoir se convertir à l'islam. Sans aucun doute, aucun mot du monde ne peut venir effacer la douleur de quelqu'un qui vit la perte d'un être cher. Mais qu'en est-il de celui qui vit la perte d'un être cher, mais que cette personne, Allah a décidé de ne pas le guider à l'islam? Et nous, en tant que musulmans, on doit être là aux côtés de ces personnes-là. On doit être là pour les soutenir, pour être toujours à leur côté. D'abord du vivant de leurs proches, pour invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il les guide. Et si malheureusement certains d'entre eux meurent sans avoir été guidés, être là pour soutenir ces personnes parce qu'ils en ont besoin pendant cette épreuve extrêmement difficile. On en vient à présent à la fameuse révélation que le professeur Hassan va recevoir. Il va la recevoir dans la tente et il va sortir pour ordonner qu'il y ait l'attaque générale. Donc on n'est plus en position de défense, mais l'attaque générale. Pourquoi? Parce qu'il va recevoir une révélation. Et ça, qu'est-ce qu'elle dit exactement cette révélation? C'est ce que nous verrons la fois prochaine. Bi-ibnillahi tabaraka wa ta'ala. Je vous remercie pour votre attention. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.